RCF.
Bonjour amis auditeurs, auditrices de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, sous le patronage d'Agora Défense, dans le cadre du Berry se raconte. Nous retrouvons aujourd'hui Françoise Trottignon pour notre seconde émission consacrée aux travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. Mais cette fois-ci, les travailleurs chinois, non pas en Berry, mais en Europe, et en particulier une puissance alliée, l'Angleterre. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes trésorier adjoint de la Société d'archéologie et d'histoire du Berry. Vous n'aimez pas trop que je vous dise ça, mais je le dis quand même. Mais que cette fonction ne vous empêche pas de produire de très nombreux articles et ouvrages sur l'histoire du Berry. Et nous savons tous votre attachement viscéral au paléolithique, votre grande spécialité. Merci encore Françoise pour cette seconde émission. Nous poursuivons l'histoire de ces travailleurs chinois, cette fois-ci, eh bien, du côté anglais. Si nous souvenons bien de notre dernière émission, nous débarquons au Havre, hein, c'est ce que vous m'avez bien dit, au Havre, puisqu'on passe plus par Marseille, mais avant le Havre, il y a peut-être des Chinois aussi qui débarquent en Angleterre.
Non, ces Chinois ne débarquent pas en Angleterre. L'Angleterre, dans son immense pragmatique, voire cynisme, les amène directement près du front, au Havre ou à Dieppe. Il n'y a pas, les convois qui partent de Vancouver sont secrets. Donc ces Chinois, au service de l'Angleterre, puisque l'Angleterre est une des puissances qui a signé les contrats avec la Chine pour les faire venir, les emploient avec des contrats de 3 ans. Au lieu de 5 en France, et les salaires sont beaucoup moins élevés, puisque c'est 1 franc par jour au lieu de 1,50, et pour les ouvriers qualifiés, c'est 1,50 au lieu de 6 francs, ce qui est quand même une différence énorme. Les conditions de vie sont également très très dures, puisque ces camps sous dominance anglaise sont très très stricts, les gardiens sont armés de gourdins, les Chinois ont interdiction de sortir dans la ville, interdiction de fréquenter les cafés, les bars, ils sont cantonnés à l'intérieur, où il règne une discipline de fer, et les officiers anglais qui ne parlent pas beaucoup chinois leur disent go, go, pour dire allez, et en mandarin ça veut dire chien, d'où des tensions innombrables, puisque les Chinois ont l'impression qu'on les traite effectivement de chiens, et il y a des rébellions, et certaines seront très très durement réprimées jusqu'à quelques fusillés.
Donc des conditions de vie quand même, une utilisation totalement différente par rapport à la France.
Voilà, et surtout, mais ça se comprend aussi, c'est que la France étant sur son propre territoire, peut les utiliser jusqu'à La Rochelle ou dans le Var, tandis que l'Angleterre n'est pas chez elle, et les utilise sur le front, ce qui est quand même normalement défendu. Elle les utilise pour des opérations de déminage, pour exhumer des cadavres, et les pauvres Chinois travaillent 10 heures par jour dans des conditions dangereuses, les camps sont près du front, ils sont parfois bombardés, et il y a eu beaucoup de rébellions. À côté de ça, il faut le dire que ils ont maintenant un cimetière à Noyelles-sur-Somme, sur mer, dans la Somme, où on a des cimetières extrêmement bien entretenus. On a l'impression qu'on a plus de considération pour eux morts qu'on en a eu quand ils étaient vivants.
À ce point-là?
Oui.
On a des témoignages de tout cela ou par des journalistes?
Il y a quand même des témoignages qui ont vu ces pauvres Chinois qui disent qu'ils errent sur le front comme des fantômes en déminant, et certains se font évidemment exploser et ils sont à peine nourris. Et c'est une vie très difficile que d'être dans un camp sous domination anglaise.
Est-ce qu'ils sont aussi nombreux par le nombre pour l'Angleterre qu'en France?
Je ne sais pas.
On ne sait pas.
Déjà, les chiffres sont extrêmement variés parce que le chiffre officiel de Chinois en France est 37 000.
Oui.
Alors que d'autres chiffres disent 100 000 et même 140 000.
Donc, il est très difficile de faire une étude.
Très difficile. Il y avait des numéros, puisque là, dans les témoignages, on a le courrier que j'ai publié et que j'ai donné aux archives départementales. Un courrier qui vient donc de la station magasin d'Embrenay, où on fabrique le pain pour le front, qui s'adresse à l'ouvrier 190-055 de Port-Sec. Donc, ils ont un numéro. Ils n'ont pas de nom.
Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas d'existence.
Sûrement qu'entre eux, ils se connaissent, forcément.
Oui.
Mais ils ont un numéro matricule.
Est-ce qu'il y a aussi, du côté anglais, ce défaut un peu qu'ont les Chinois à vouloir jouer à tout prix? Est-ce qu'il y a aussi ce souci social que les Français...
Je vais être plus difficile, mais je pense que dans les camps anglais, les Chinois n'ont même pas le temps de respirer. Donc, ils n'ont pas le temps de jouer.
À ce point-là?
C'est très, très dur. Les gardiens ont des gourdins. Quand ils arrivent ici dans les établissements militaires, dans le hangar U, ils ont quand même leur dimanche. Ils peuvent aller se baigner donc dans l'Yévrette. Ils lavent leur linge. Ils font des petites soirées de jeu. On leur laisse la France à veiller toujours à respecter les coutumes. Donc on leur donne du riz. On les laisse faire leur cuisine. On leur laisse fêter le Nouvel An chinois. Les Kabyles font il y a des cafés morts. Mais l'Angleterre n'est pas réputée, je suis désolée de le dire, pour son respect des traditions. C'est un pays qui s'est toujours imposé.
Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Mais ces Chinois qui arrivent, qui sont en France, est-ce qu'ils correspondent avec leur famille?
Oui, ils correspondent avec leur famille grâce au service de l'UMCA, oui, qui fait des courriers où tout le monde signe. Donc la lettre que j'ai publiée, on voit qu'il y a 12 signatures, qui parviendra normalement à la famille. Et surtout, si on peut envoyer un peu d'argent. Je ne sais pas si les Anglais envoyaient aussi ce service pour envoyer un peu d'argent. Je pense que l'UMCA travaillait dans tous les camps, anglais et français. Maintenant, il se trouve que ces documents ont un avenir bien, bien hypothétique, parce que vous jetez les lettres.
Hein. Alors, je vous pose une question. À plusieurs reprises, vous nous avez parlé du bâtiment U ou du garage U.
Oui, c'est un hangar.
Il se situe où?
C'est un hangar U, il est situé dans l'enceinte des établissements militaires. C'est un hangar qui est affecté au logement des ouvriers chinois et kabyles. Mais on essaye de faire une séparation parce qu'il y a des frictions entre les deux ethnies. Donc il faut, hein, comme par exemple les femmes qui travaillent, elles sont logées au quartier Carnot.
Il y a des Chinois, il y a des femmes chinoises.
Il n'y a que des hommes. Mais dans ces ouvriers étrangers, on peut citer quelques Belges, deux femmes d'Argentine, quelques Portugais, un Japonais, un unique Japonais. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Enfin bon. Donc beaucoup de Chinois. Mais je n'ai pas les noms des Chinois, c'est des numéros. Alors que les Kabyles ont des noms.
Est-ce que vous savez si les Anglais ont fait d'autres main-d'œuvre que les Chinois?
Oui. C'est-à-dire qu'ils ont fait venir les gens de leur empire colonial, mais pour travailler, pour être soldats sur le front.
Plus,
comme
oui,
les Sikhs, enfin toutes les populations des Indes, mais étaient des soldats.
Oui, je comprends très
la
bien.
La France était, comment dire, les Anglais se battaient sur un terrain occupé qui n'était pas le leur.
Oui.
Ils étaient obligés d'en référer aux autorités françaises pour faire venir des populations de main-d'œuvre. Il y avait quand même il fallait composer.
Très bien. Donc disons que les Chinois, si je puis me permettre cette synthèse, les ouvriers chinois ont été plus heureux du côté français que du côté anglais.
Voilà, moins malheureux.
Moins malheureux.
Surtout, ils n'étaient pas près du front. Alors, à Ambrenay, c'était l'établissement le plus près du front. Mais là, c'était un travail, c'était les cadences infernales pour que le pain parte sans arrêt.
Oui.
Et il fallait faire attention parce que tout était mécanisé. C'était assez un peu dangereux. Bon, là, ils avaient une certaine liberté d'action. Normalement, en France, ils n'avaient pas le droit de sortir, mais on fermait les yeux. Ils faisaient un petit tour en ville, mais comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. La hantise des autorités françaises était les mariages avec les femmes françaises parce que la femme qui se mariait avec ou un colonial ou un Chinois perdait sa nationalité française. Mais ça n'a pas arrêté un certain nombre de Chinois qui se sont mariés et qui sont restés en France, mais pas à Bourges.
Pas à Bourges.
Non, il y a beaucoup de Chinois qui sont allés à Paris, dans le quartier de l'îlot Chalon, autour de la gare de Lyon. Un peu plus tard, dans le triangle de Choisy, donc l'équivalent du quartier chinois aujourd'hui. Alors l'îlot Chalon a été entièrement démoli. C'était un ensemble de petites rues étroites, avec des logements sûrement pas très chers. Et on compte à peu près 2000.
Ah, quand même.
2000 colonies chinoises, à peu près 2000 personnes en France. Mais beaucoup sont restés aussi dans les usines sidérurgiques du centre de la France, Infil, La Machine, Fourchambault. Et là, ils ont fait souche.
Ils ont fait souche.
Oui, et il y a encore des gens qui disent que leur grand-père était venu travailler, était chinois.
Ah, ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout.
Si, si, c'est... Il y a même eu un livre écrit par un descendant. Si, si, c'est intéressant.
Chinois, parce que moi, je pensais...
Chinois et
Chinois, oui. Ah, très bien.
Il y a à Hanoï, il y a un monument aux morts de la guerre de 14.
Oh,
parce qu'il y avait quand même des tirailleurs en Inde, mais il ne faut pas l'oublier. La France utilisait aussi ces Indochinois pour le combat.
Pour le combat, comme ils l'ont fait.
Comme les Sénégalais, oui, comme les tirailleurs algériens et marocains.
Très bien. Bah, écoutez, Françoise, merci encore pour ces explications. On a ouvert un petit peu une partie du livre concernant cette présence des Chinois en Europe, en particulier en France, en Angleterre.
Et je voulais dire juste une petite chose.
Oui, allez-y.
C'est que de cette fourniture de main-d'œuvre qui a été déterminante dans l'effort de guerre de l'Angleterre et de la France. Eh bien, la Chine a gagné une place importante sur la scène internationale et grâce au sacrifice de ses enfants dans un conflit qui n'était pas le leur.
Donc, il y a une reconnaissance de la Chine par ce premier conflit mondial.
Je pense que la Chine est rentrée sur la scène internationale. Et d'abord, en 17, elle a déclaré la guerre à l'Allemagne. Donc, elle est rentrée pleinement dans le conflit et elle a gagné une place sur la scène internationale, au lieu d'être un empire du milieu dans lequel les étrangers étaient interdits.
Donc, quelque part, c'est le début un petit peu du renouveau de la Chine.
Oui, mais à quel prix ?
Oui, c'est vrai. Donc, début du renouveau de la Chine qui va s'accélérer avec la Seconde Guerre mondiale et bien sûr après la Seconde Guerre mondiale, comme nous le savons, hein, avec l'arrivée de Mao, départ de Chiang Kai-shek. Mais là, c'est, si j'ose dire, une autre histoire.
C'est une autre histoire.
Une autre histoire. Merci encore, Françoise, pour cette page d'histoire de notre Berry, mais aussi hors Berry, car nous avons fait allusion à l'Angleterre et, disons, au comportement des Anglais vis-à-vis de cette population chinoise venue travailler avec eux en France. Hein, et on a bien vu la différence entre l'Angleterre et la France concernant ce respect des personnes. Merci à vous aussi, auditeurs, auditrices, pour votre fidélité à RCF et à l'émission Le Berry se raconte avec Agora Défense. Et bonne journée à vous.